Les coqs chantent le jour pareil, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Quel est l'impact du Covid-19 et les mesures barrières sur l'agriculture et l'alimentation en Afrique de l'Ouest? Nous en parlons aujourd'hui avec les responsables et les animateurs de l'ONG internationale SOS Sahel. Il y a un premier impact sur notre propre travail. Nous sommes obligés d'interroger ces acteurs de terrain au téléphone. Sur le plan agricole, ce qu'on appelle le Sahel, c'est une région située au sud du Sahara qui s'étend du Sénégal à Djibouti. C'est un écosystème particulièrement fragile et de graves sécheresses à répétition ont rendu les terres infertiles. Les agriculteurs ne peuvent plus produire suffisamment pour nourrir leurs familles. Au Sahel, plus de 30 millions de personnes sont actuellement menacées par la famine. Les femmes représentent 80% des personnes les plus touchées. Rémi Emmerich est délégué général de SOS Sahel, une ONG fondée en 1976 et qui est présente dans 11 pays d'Afrique avec pour vocation d'améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations.
Oui, c'est vraiment l'originalité de cette association puisque dès le départ, elle a créé un réseau d'organisations locales qui travaillent avec les associations de producteurs, les associations villageoises ou toute forme d'organisation locale, ça peut être aussi des communes, pour soutenir les initiatives des paysans, des agriculteurs et des agricultrices, des agriculteurs familiaux, pour leur permettre de pouvoir d'abord produire pour se nourrir, mais aussi pour pouvoir produire pour le marché local et approvisionner les marchés locaux. Malheureusement, la région sahélienne, de toute façon, c'est aussi le résultat de ces sécheresses successives, avec une croissance démographique, donc des terres de moins en moins fertiles, une situation économique de plus en plus fragile, une situation sociale qui devient de plus en plus précaire, et du coup la situation subit des crises chroniques que l'on retrouve dans certaines régions un petit peu tous les ans, selon un petit peu la situation, on va dire, des pluies, hein, puisque au Sahel, on ne récolte principalement que des céréales qui sont produites entre le mois de juin et le mois d'octobre. Donc si jamais ces productions-là ne sont pas réussies, en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour se nourrir. Si bien que l'important, c'est de diversifier les systèmes de production. C'est aussi le problème des systèmes de monoculture que l'on a engagés dès le départ, comme la monoculture de l'arachide au Sénégal, la culture du coton de façon industrielle, etc. Elles sont intéressantes, ces cultures, à partir du moment aussi où elles permettent de faire d'autres productions alternatives en dehors de la saison des pluies. Et donc actuellement, le Sahel est réellement menacé d'une nouvelle famine, à la fois du fait de la crise climatique, mais aussi des différents déplacements qui sont liés aux conflits, qui sont liés à la situation qui touche les communautés dans les différents villages.
Et restons au niveau de la production, je veux voir si je comprends. C'est-à-dire que la production déjà est faible en quantité, mais la valeur nutritionnelle aussi n'y est pas.
Cette diversification dans le bol alimentaire, effectivement, le Sahel a plein de richesses. Par exemple, un des fruits que l'on connaît, par exemple, que l'on appelle le boui au Sénégal, a la meilleure valeur nutritive en matière de vitamines, en matière d'oligo-éléments, etc. C'est un des aliments les plus riches de la zone sahélienne. S'il est exploité, s'il est mis en valeur, si on conserve les arbres, eh bien, on peut récolter différents produits des terres sahéliennes, autres que justement les céréales, l'arachide, toutes sortes de productions, fruits, légumes, etc., qui sont disponibles, mais il y a aussi une question d'organisation des producteurs et d'organisation des marchés pour approvisionner des marchés locaux.
D'accord, j'ai vu que vous travaillez avec 80% de femmes.
Parce que ce sont d'abord les femmes qui nourrissent les hommes. Ce sont elles qui produisent 90% de la production alimentaire de la région sahélienne. Ce sont elles qui sont là au quotidien pour aller labourer, pour aller désherber, récolter, stocker, transformer et donc fournir l'alimentation qui est nécessaire aux familles, aux maris, aux enfants et aussi à l'ensemble de la communauté.
Pour la commercialisation aussi, on les voit à l'œuvre, les femmes, que ce soit en ville ou au village.
Exactement. Et justement, la question, c'est de valoriser aussi la production, faire des premières transformations lorsque c'est nécessaire. Par exemple, au Burkina Faso, nous avons le fameux beurre de karité qui sert d'abord à 90% dans l'alimentation, dans l'alimentaire. Mais le beurre de karité peut aussi avoir des tas d'autres usages qui peuvent aussi être valorisés sur la région sahélienne et on va aller chercher, on va soutenir les initiatives des organisations, des coopératives de femmes pour qu'elles puissent réellement mieux vendre des produits aussi mieux fabriqués de manière à pouvoir en tirer un meilleur revenu.
Ce que nous venons de décrire sur le quotidien, arrive un premier fléau, l'insécurité. Les gens ont fui les villages sans récolter et sont arrivés dans des lieux de refuge où il n'y avait déjà rien.
Justement, les gens ont été obligés de se déplacer, de se rapprocher des villes, là où justement les productions alimentaires sont plus chères, parce que ce sont des matières qui sont plutôt importées.
On arrive toujours à faire pire, donc on est parti d'une situation d'insécurité alimentaire, on a ajouté l'insécurité politico-militaire, puis maintenant, il y a l'insécurité sanitaire qui arrive avec le Covid-19.
C'est ça, parce que justement, les impacts de la crise du Covid viennent surtout, par exemple, de la fermeture des marchés, donc de l'impossibilité aux producteurs de vendre leurs produits, d'être obligés parfois de les détruire. Et je pense que les conséquences, on va les subir dans les mois à venir, parce qu'il va y avoir ce que l'on appelle la période de soudure, la période où on attend la prochaine récolte. Et si les populations, les agriculteurs n'ont pas de revenus monétaires, en particulier les femmes qui nourrissent toutes les familles, eh bien, ça va réellement poser des problèmes encore à nouveau de crise, de famine et encore de déplacement, d'insécurité, etc.
Mais attendez, je vais essayer de voir ce que vous me décrivez, c'est-à-dire que j'ai produit mes légumes, on a fermé le marché, c'est-à-dire que je ne peux pas venir vendre ces produits en ville, la ville est en quarantaine, et je suis obligé de jeter ces produits que j'ai produits à grand-peine.
C'est bien le cas, notamment pour des produits maraîchers qui sont périssables ou alors d'autres productions fruitières. Il y a la crise du Covid qui vient accentuer encore le phénomène. Il faut savoir, par exemple, que dans certaines régions, 70% de la mangue, puisque c'est la saison des mangues, tombe par terre et n'est pas récupérée. Et donc, justement, à partir du moment où il n'y a plus de marché, il n'y a plus de revenus monétaires, et donc il n'y a plus de moyens de s'alimenter.
Mais au sortir de cette crise, même si on ne sait pas quand ça va se faire, il y aura forcément des répercussions économiques, alimentaires et tout ça sur les familles.
C'est bien notre alerte, c'est bien le phénomène que l'on craint pour les mois à venir. Et la crise alimentaire risque encore d'être plus forte que la crise sanitaire. On espère que la crise sanitaire va être contenue, que les mesures barrières, etc. vont quand même réussir à éviter une trop forte propagation donc, du coronavirus. Mais par contre, la crise alimentaire risque d'être très forte. Et donc, je crois qu'il y a certainement des mesures à mettre en place pour rouvrir les marchés, permettre la commercialisation des productions de manière à ce que les populations puissent être plus résilientes.
Donc c'est l'occasion de dire vraiment SOS.
C'est tout à fait SOS, malheureusement. Oui.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ok.
Et portez-vous bien.
Merci.
Au revoir.
Voir comment tout cela fonctionne dans un pays, nous allons au Burkina Faso, où nous attend Alfred Sabatogo, qui est président de SOS Sahel Burkina. Ce technicien parle de difficultés structurelles, des effets du changement climatique, de l'insécurité politico-militaire dans la bande sahélienne et de l'impact de Covid-19. Et tout cela dans des zones rurales où les économies des familles sont en difficulté tout au long de l'année.
Mais c'est une situation qui est habituelle, hein, puisque toute une partie du pays, notamment le plateau central, et le nord, et le centre-nord, et le Sahel, même en année d'abondance, les récoltes ne couvrent que 60% des besoins.
Monsieur Sardou, je veux voir la géographie du pays, c'est-à-dire qu'on a le nord, là c'est le Sahel, c'est la partie aride, et on a l'ouest et le sud, là c'est la savane, là c'est la partie pluvieuse, c'est la partie humide.
Pluvieuse, souvent à 1200 mm de hauteur d'eau par an.
Alors que dans le Sahel, c'est combien de millimètres par an?
Or, si nous avons 400 à 500, c'est déjà une bénédiction.
Donc, à la récolte, il y a une abondance. Et plus l'année et la saison sèche continue, plus les réserves s'épuisent, puis apparaît ce que vous appelez là-bas la période du soudure.
Ah oui, et c'est une période extrêmement difficile parce que les stocks alimentaires sont épuisés et c'est à ce moment-là que les gens ont besoin de beaucoup de nourriture pour pouvoir être apte à travailler au champ. Il faut développer beaucoup d'efforts pour achever les sarclages, les binages, etc. Et c'est à ce moment-là, en général, qu'il manque donc de nourriture suffisamment.
Ça, c'est les réalités agroclimatiques. Puis sont venus intervenir les changements climatiques.
Ah oui, c'est un phénomène qui est observé depuis une trentaine d'années, avec la dessiccation même des baobabs, ces arbres mythiques.
C'est quoi la dessiccation?
Les baobabs meurent.
Ah, les baobabs même meurent?
Ah oui, les baobabs, qui sont des arbres centenaires, n'ont pas pu résister. Et à travers le Sahel, vous avez des centaines de baobabs qui sont morts.
Ça, c'est un premier signe.
Ah oui, ça, c'est incroyable.
Pour le regard averti du producteur au Sahel, la disparition des essences végétales ont des significations plus ou moins agréables. Et la disparition des baobabs fait partie des signaux les plus alarmants.
Vous savez, quand ce pays, notre pays, dans sa partie nord ou centrale, je peux dire que c'est un site à famine répétitive. Il y en a de très anciennes. Et la plus grave, c'est 1914, qui a causé 57 000 morts, rien que dans le grand cercle du Yatenga. Puis, plus tard, il y a 1921, avec la famine des criquets pèlerins qui sont arrivés et qui ont pondu des œufs. Et les œufs, en début de chaque hivernage, pendant 7 ans, ravageaient les semis. Et puis, la plus connue, c'est les années 70, avec tout l'espace des pays du Sahel, mais jusqu'en Afrique de l'Est, c'est-à-dire le Soudan, l'Éthiopie. Et donc, cette sécheresse qui a engendré la famine a vraiment eu un impact négatif sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces arbustives qui constituaient en fait une base d'alimentation pendant les périodes de détresse. Et effectivement, une sécheresse capable de tuer les baobabs n'ont pas épargné les autres essences qui étaient utilisées en temps donc de détresse de famine.
À cela s'ajoute la perte de fertilité des sols?
Ah oui, oh là là, c'est vrai. C'est pourquoi d'ailleurs SOS Sahel, dans ses efforts, tente de soutenir les producteurs pour que les sols puissent être réhabilités. Et actuellement, nous sommes sur un grand programme financé par la Suède et qui consiste à réhabiliter 30 000 hectares de terre d'ici 5 ans. Et pour que ces terres redeviennent vraiment des terres qui puissent porter donc des bonnes récoltes et décupler même les récoltes et à travers des méthodes que les producteurs adoptent progressivement et qui sont vraiment efficaces.
Alors, M. Savadogo, avec tout ce que nous venons de décrire, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés, mais les gens se battent, arrive la crise de Covid-19 avec les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a fermé les marchés, on a interdit les circulations des moyens de transport et il y a eu des mesures de quarantaine. Tout cela a joué sur l'alimentation des populations.
Le Covid a envoyé les pays par les centres urbains, ce qui n'était pas le cas de la pandémie de Ebola, qui, elle, a commencé par les villages. Et ça, c'était plus compliqué. Alors, le Covid est venu dans le pays à travers les centres urbains et, pour une fois, c'est une sorte de chance que cette pandémie ait commencé par les centres urbains, parce que ce sont les centres urbains qui possèdent les moyens efficaces de lutter contre cette pandémie. Et effectivement, tout ce que vous venez de citer a été entrepris par le gouvernement et ses partenaires pour que la pandémie n'envahisse pas les villages et reste confinée et que la chaîne donc de transmission puisse être rompue très vite. À cet égard, c'est donc les quarantaines, fermeture des marchés, etc. Alors, la période de ce mois de mars, de ce mois d'avril, eh bien, cette période ne correspond pas à la grosse période de production agricole dans notre pays. Et c'est une chance. Et on peut espérer que d'ici là, le Covid va être complètement éradiqué et que les villages ne vont pas être contaminés et les populations vont être libres de pouvoir entreprendre les travaux champêtres. Et progressivement, au jour d'aujourd'hui, le déconfinement progressif va permettre la relance donc économique, puisque avec le ralentissement, la fermeture des marchés, la consommation s'était quand même ralentie, ce qui n'a pas été aussi facile. Parce que vous savez, dans les centres urbains, beaucoup vivent dans l'informel. C'est une source de gagne-pain quotidien pour des milliers donc, de petits commerçants et de petits donc des vendeuses de condiments, etc. Il faut dire que les marchés, effectivement, fermés, ont posé problème. Et on a vu très vite des revendications de réouverture. Ce qui est légitime.
D'accord, je vous remercie.
Voilà, ok.
Nous étions en compagnie des responsables et des techniciens de terrain de SOS Sahel, une ONG internationale active dans le domaine de la sécurité alimentaire dans 11 pays de la bande sahélienne en Afrique. Nos invités nous expliquaient l'impact du Covid-19 et les mesures barrières sur l'agriculture et l'alimentation en Afrique de l'Ouest. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire. Carrefour de...